France Inter, partenaire de l'exposition « Aux sources de la peinture aborigène, Australie » jusqu'au 20 janvier au musée du Quai Branly. Le musée vous entraîne au cœur du désert australien à la découverte d'un des plus importants mouvements de l'art aborigène. Pour la première fois en Europe, près de 300 œuvres et objets à l'intensité brute retracent l'évolution de ce courant pictural, des premières peintures majeures au grand format du début des années 80. Retrouvez l'exposition « Aux sources de la peinture aborigène » au musée du Quai Branly dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, la voix est libre.
15h04 sur Inter, Daniel Mermet, tout de suite le répondeur de La Bassie, j'y suis.
Oui, bonjour Daniel, j'avais un vieux copain en 68 qui me disait toujours « Les socialistes, c'est comme les radis, c'est rose dehors, c'est une fois déshabillé, c'est blanc, c'est creux à l'intérieur et c'est toujours pas du beurre ». Voilà, c'était une petite citation. C'était Jean-Paul de l'Essonne. Salut Daniel, bon courage.
Camarade Fralib, Unilever veut pas fournir votre scope en thé et alors, de toute façon, il est cueilli à l'autre bout du monde par des trains de misère. Pourquoi pas mettre en sachet de l'amande, de la bourrage, de la sauge, cultivée localement par un groupement de producteurs. Une coop ouvrière adossée à une coop paysanne ferait de la gueule. Et que Paul Polman s'assoit sur son thé. Bon, après, il y a le problème de la marque. Mais dites, vous savez de quoi les éléphants ont une peur panique ? Des souris. Alors, je sais pas, moi, faites des tisanes bio et appelez ça la souris verte. En tout cas, lâchez rien. C'était Christine du Limousin.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Attention, attention à ne pas rater en Ardèche, mardi 16 octobre 2012, à partir de 19h, à Alboussière, la salle communale, une conférence gesticulée de la SCOP Le Pavé, présentée par Anthony Brault, le plein d'énergie. Je compte sur vous, venez nombreux. Je répète, mardi 16 octobre, à partir de 19h, à la salle communale à Alboussière, en Ardèche, la SCOP Le Pavé, conférence gesticulée d'Anthony Brault. Venez nombreux. Ciao, ciao, qu'on se le dise.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Lundi dernier, il y a eu dans un lycée, le lycée Jean Cassaigne à Saint-Pierre-du-Mont, une opération de détection surprise de drogue. 570 élèves ont été reniflés et fouillés par des chiens. Pas un milligramme de drogue a été trouvé. 6 élèves ont cependant été entendus parce qu'il y avait une odeur suspecte dans leur cartable. À qui sert une telle opération ? Surtout pas aux policiers qui se sont détournés de leur rôle en acceptant cette mascarade. Surtout pas non plus aux professeurs qui ont laissé faire et qui ont de ce fait perdu une partie de leur autorité. Pas aux élèves non plus, car comment faire encore confiance aux adultes après un tel événement ? Surtout pas aux si jeunes entendus qui vont maintenant être ciblés dans l'établissement à cause d'une mauvaise odeur dans leur cartable. Alors reste le proviseur, où il s'est fait mousser. Il pourra dire qu'il n'y a pas de drogue dans son lycée. Alors oui, bravo monsieur. Ça, c'est de la pédagogie. Parents d'élèves de ce lycée, retirez vite vos enfants de cet établissement. Ils sont en danger. C'est Soisic en Bretagne. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel. J'appelle, j'ai eu la surprise, en me levant jeudi matin sur France Inter, d'entendre que le congé des agriculteurs, un crédit d'impôt de 800 euros, sera supprimé. Que le gouvernement considère que c'est une niche fiscale. En moi, qui suis actuellement vaché de remplacement, j'en bénéficie, on va dire, indirectement, étant donné que je travaille pour un service dont les agriculteurs bénéficient. Et donc, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est fait partie de mon maigre salaire de moins de 1200 euros par mois. Alors, quand on se lève à 4h30 du matin et puis qu'on entend qu'on aura peut-être bientôt plus de boulot, franchement, ça fout les boules. Alors, à ceux qui prennent une décision à Bercy, qui nous foutent un peu la paix, et ceux qui bossent, qui se lève jour et dimanche. Voilà, ciao.
Bonjour, je travaille chez Sanofi et je souhaiterais vous faire part du malaise de ces chercheurs qui en ont vraiment marre de se faire prendre pour des incompétents et des imbéciles. La direction de Sanofi a fait appel à un lobbyiste de renom pour discréditer ses salariés. Et cela fonctionne à merveille puisque les médias et le gouvernement par l'intermédiaire de Montebourg sont tombés dans le panneau la semaine dernière. Rien de changé dans le plan de destruction des emplois et le sort du site de Toulouse. Simplement de la com. La direction ment à ses salariés et à ses actionnaires par l'utilisation d'un double langage, tout comme elle ment à son conseil d'administration en omettant certaines données dans ses rapports. Nous, chercheurs de Sanofi, voulons travailler dans un environnement serein, indispensable au bon déroulement de notre recherche, et non subir des fusions et des réorganisations tous les 3 à 5 ans sous prétexte de rationalisation des coûts. Nous, chercheurs de Sanofi, subissons sans cesse des coupes budgétaires et des pressions pour aller toujours plus vite. Mais notre intégrité scientifique nous empêche de chanter certaines étapes de validation du médicament. Le projet de réorganisation d'aujourd'hui et ses nombreuses réductions d'emplois doit s'achever en 2015 au plus tard. Et après ? D'ici là, le centre de recherche de Shanghai se sera bien développé et d'autres se seront créés dans les pays émergents et fini la recherche en France. Il est temps d'arrêter cette hémorragie. Nous, chercheurs de Sanofi, avons choisi de travailler dans l'industrie pharmaceutique pour venir en aide aux malades et non aux actionnaires. Soutenez-nous, signez notre pétition Les Sanofi sur change.org. Merci de votre aide. À bientôt.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Et merci aux amis de la Motte qui nous ont reçus ce week-end si chaleureusement. Et aux amis de la Cigale à Saint-Pons. Merci pour les cèpes. C'était très réussi. Voilà quelques messages amicaux envers les AMG. Et aujourd'hui, on continue. Nous voilà aujourd'hui avec une phrase très très souvent entendue. Ah mais moi je suis pas raciste. Mais les Roms, vous l'avez entendu cette phrase-là. Ne dites pas non, vous l'avez entendu. Sinon, prononcez. Moi je suis pas raciste. Mais alors, quand on voit... Et puis alors leurs mots. Et puis alors comment ils font. Et puis alors... Ils sont voleurs, et puis alors, ils prostituent leurs enfants, et puis, il n'est pas rare non plus qu'ils mangent un peu leurs enfants aussi. Voilà, on en est. Les Roms sont les boucs émissaires de service actuellement dans notre pays. Ça fait un bout de temps quand même, hein, ça revient assez souvent, le Rom. Il y a eu toutes sortes de boucs émissaires, depuis les Ritals, les Bougnouls, les Espingouins, les Ratagnes, les Youpins, tout ce que vous voudrez. Chacun son tour à faire le bouc émissaire, à servir la démagogie ambiante, à être la cause de tout. Quels sont les grands problèmes en France aujourd'hui? Croyez-vous que ce soit la dictature de la finance? Croyez-vous que ce soit l'emploi, la perte du pouvoir d'achat, le réchauffement climatique? Non. C'est les Roms qui sont partout, les Roms qui nous menacent, les Roms qui viennent jusque dans nos bras voler les poules de nos filles et nos campagnes. Voilà, c'est une... Et ça marche pas mal, ça a bien marché avec le gouvernement précédent. On se souvient des affirmations de M. Guéant et visiblement aujourd'hui, ça continue. Un peu en été, un peu lâchement, vous savez, les choses qui se font au mois d'août, pendant que tout le monde est un peu à la plage, là, une fois c'est à Grenoble qu'on fait des déclarations extrêmement viriles contre les Roms, on défend les valeurs de la République, puis ça peut être aussi, là, avec un nouveau gouvernement de gauche, à peu près la même chose pour montrer qu'on va faire respecter l'ordre républicain, les pouvoirs régaliens seront respectés, etc., contre quoi, tout au plus 15 000 personnes, familles, venues de Roumanie ou de Bulgarie, qui dans le cadre européen, on veut l'Europe, on a les Roms, c'est bien normal, ils sont tout ce qu'il y a de plus européen que les Roms, il n'y a pas. Ils sont à travers toute l'Europe depuis fort longtemps, depuis le 14e, 15e siècle. Ils sont là. Si vous voulez faire l'Europe sociale, l'Europe des peuples, il faut faire l'Europe des Roms. Et c'est pas si marrant que ça pour les Roms eux-mêmes. Ce matin même, évacuation d'un camp de Roms à l'est de Paris, ça fait une phrase ou deux. Il faut dire que dans la Seine-Saint-Denis, ils sont en moyenne expulsés 9 fois par an. Donc c'est une routine. Et puis qu'est-ce qu'ils font, ces pauvres R, et avec leur famille, leurs baluchons, leurs mômes, et leur, ce qu'ils peuvent avoir trouvé comme petits morceaux de cuivre, ça et là, et ben ils vont un peu plus loin dans un autre camp où leur famille, leurs voisins, les vieux copains, ou alors au contraire, les accueillent de gré ou de force. Vous connaissez évidemment ce fameux sondage publié à son de trompe au mois d'août qui nous disait 80% des Français sont favorables au démantèlement de camps illégaux de Roms. Eh bien, moi aussi. Je vais vous dire, moi, Daniel Mermet, producteur délégué à France Inter et journaliste, je dis, je suis d'accord pour le démantèlement des camps illégaux de Rome. Je suis tout à fait d'accord pour que ces gens qui souffrent, qui vivent dans des conditions aussi dégueulasses, soient accueillis ailleurs et autrement que dans cette misère. Et je pense que beaucoup de Français ont répondu dans le même esprit à une question aussi vicelarde et aussi perverse. Favorable au démantèlement des camps, ça ne veut pas dire qu'on veut tous, on est 80% de Français à vouloir les foutre dehors. On voudrait que ces gens vivent moins mal. Et en ça, on est simplement des gens normaux, ordinaires, avec un bon sens et un sens un peu moral que nos mamans nous ont appris, tout simplement. Et d'autant plus qu'ensuite, et ça c'est beaucoup moins connu, c'est l'autre partie de ce même sondage, mais 73% jugent la mesure inefficace. C'est-à-dire, on est pour le démantèlement, mais on trouve que ça ne marche pas. Voilà, c'est quand même intéressant de voir un sondage avec toutes les pincettes qu'il faut utiliser pour considérer ce genre de sondage. C'est quand même assez intéressant. Donc en ce moment, voilà, les Roms servent de bouc émissaire, et ça nous a intéressé quand même d'aller faire un tour un peu plus précisément autour de ces camps de Rome, dans ces camps de Rome, et avec ceux aussi qui s'en préoccupent. Nombreuses associations qui, depuis des années, on a dû faire notre premier reportage sur ce sujet, il y a une vingtaine d'années, à Nanterre, si j'ai bonne mémoire, déjà avec Médecins du Monde, pour essayer de comprendre où nous en sommes, où ils en sont, et qu'est-ce que c'est que ce pays qui est incapable d'intégrer une petite population comme celle-là de 15 000 personnes. Un jour, sans doute, on oubliera ça, on regrettera ça, peut-être comme on a regretté, oublié pour les uns et les autres, pour les Arméniens, pour les Belges. Oui, il y a eu un racisme anti-belge contre les Italiens et beaucoup d'autres, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, etc. Mais en ce moment, c'est leur tour. Je suis raciste, ou non ? Non, je ne suis pas raciste, mais enfin, les Roms. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, moi je m'appelle Christine, je suis directrice d'une maison de retraite et on me demande d'appliquer une convention depuis toujours qui s'appelle la convention collective 51 FEAP. Voilà, aujourd'hui, il y a des salariés qui vont se mettre en grève, qui vont aller manifester, parce qu'on leur demande de renoncer à des acquis. Alors je vous donne un exemple, une aide-soignante, quand elle sort de l'école, elle gagne 1 250 € par mois. En travaillant un week-end sur deux avec des conditions de travail qui sont très difficiles, et elle a 1% d'augmentation de salaire par an. Eh bien on n'a rien trouvé de mieux que de leur proposer d'avoir pendant plusieurs années des salaires qui stagnent et de leur demander d'arrêter de récupérer leurs jours fériés. Alors moi je me demande, aujourd'hui on nous dit qu'il faut bien traiter les personnes âgées, beaucoup de contraintes, mais par contre on a le droit de maltraiter les salariés. À quand le retour des bonnes sœurs pour soigner les personnes âgées ?
Moi aussi, c'est mon anniversaire ! C'est mon anniversaire ! Je veux qu'on me souhaite mon anniversaire ! Moi aussi !
Ouais, rebonjour Daniel, rebonjour les AMG, c'est toujours Ahmed, 93. Je me posais deux questions, donc j'aurais aimé avoir une réponse, si l'un d'entre vous pouvait m'aider, ça m'arrangerait. Qu'est-ce que je dois faire quand je vois un chauffeur-livreur tellement vieux, qui me fait pitié en fait ? Alors est-ce que je dois aller l'aider ou je dois pas l'aider ? Ça m'est arrivé concrètement, c'est pas un mensonge, j'ai vu un chauffeur-livreur tellement vieux que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut encore à travailler à son âge. Et la deuxième question, c'est que je suis musulman et je me rase. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois continuer à me raser ou je dois pas me raser ? Parce qu'il y a un temps on critique la barbe, mais maintenant avec les histoires de terrorisme et je sais trop quoi, on met en doute des musulmans qui se raseraient parce que ça serait un peu louche, voilà. Donc si quelqu'un a la réponse, vous pouvez me relaisser un message sur le répondeur du service public de Daniel Mermet. Merci à tous, salut.
Francis Choix, maire d'Evry, président de la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne. Vous ignorez le mode de fonctionnement de ces campements ? Le mode de fonctionnement de ces campements relève de réseaux qui sont plus proches de la mafia que d'autre chose. Les trafics, ils existent ? Non ? Non ?
Non mais les élus, ils ont un problème, c'est qu'ils trouvent que les bidonvilles, c'est moche. Fondamentalement, le problème, il est là. La bidonville, c'est moche. Donc les élus, ils sont élus pour pas qu'il y ait de trucs moches dans leur ville.
Là, on est arrivé à l'endroit où vous êtes relogé. C'est un terrain un petit peu dans la forêt.
Oui, c'est la forêt ici, oui, pour habiter jusqu'à ce soir, demain, je sais pas.
Ah non, mais j'aimerais, enfin vraiment, j'aimerais bien que vous me répondiez.
Faites votre métier.
Mais oui, mais j'aimerais bien que vous me répondiez alors.
Faites-le en conscience.
Mais c'est ce que je fais.
Non. Non, je réponds à des questions d'un journaliste de France Inter sur des questions précises. Pas sur le mode d'un procureur et d'un accusé.
Nous, on était comme les chiens, les Romains. Personne n'y intéresse pas.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Je suis pas raciste, mais les Roms.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce sera repos à pour destination Corbeil-Essonne via Évry-Courcouronne 100.
Au fond du sous-bois, le bruit d'une pelleteuse en action.
TF1, 27 août 2012.
Depuis 5 heures ce matin, les forces de l'ordre évacuent un camp rom. Plus de 70 personnes habitaient là, dont plusieurs enfants en bas âge. Ils étaient installés depuis 4 mois. Ce matin, sans logis ni repère, ils se sont rendus place des droits de l'homme devant l'hôtel de ville.
J'ai pas à maison. On est dormi. Beaucoup d'enfants.
Car c'est le maire d'Evry qui a pris l'arrêté d'expulsion pour raison de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, ancien maire de la ville, justifie cette décision.
Vous vous rendez compte des baraquements qui n'ont pas été détruits, qui ont été évacués sur le bord de la ligne RER du Dé. Moi, je ne peux pas supporter, non seulement comme ministre de l'Intérieur, mais comme citoyen, comme militant de gauche, ces bidonvilles, ces baraquements où des gens vivent dans des conditions tout à fait insupportables.
Propriété de l'État, le terrain est en effet situé près des voies ferrées du RERB. Une audience de jugement référé était initialement prévue demain matin au tribunal de grande instance d'Evry. Pour les associations, rien ne justifiait l'urgence de l'expulsion.
Alors ce matin, c'était à Noisy-le-Grand, dans la Seine-Saint-Denis, évacuation d'un camp de Rome, donc à l'est de Paris. Mais le 28 août, vous avez entendu, c'était à Évry, dans l'Essonne, Évry, dont M. Emmanuel Valls fut le maire. Et donc, le lendemain matin, eh bien, nous étions, du moins Charlotte Perry, au tribunal de grande instance d'Évry, qui devait ce matin-là statuer sur l'expulsion de ces 72 Roms qui vivaient là depuis 4 mois sur un terrain le long des voies de chemin de fer du RERD à Évry. L'expulsion avait déjà eu lieu la veille suite à un arrêté municipal d'expulsion ordonné par le maire PS, lui aussi, M. Francis Choix, que vous avez déjà un petit peu entendu en préambule de cette émission, alors même que François Hollande, vous vous en souvenez, s'était engagé à ne plus procéder à des expulsions sans décision de justice, ni sans, évidemment, solution d'habitation pour la suite. Donc ce matin, les Roms et les associations de soutien se rassemblent devant le tribunal. Ces associations, elles agissent depuis des années et des années inlassablement, avec des points de vue sensiblement différents, face à cette exploitation démagogique de la situation de ces Roms venus de Roumanie, de Bulgarie, auparavant c'était depuis la Yougoslavie, auparavant encore c'était d'ailleurs, c'est assez extraordinaire d'ailleurs qu'on soit en train de célébrer, et on a bien raison, Django Reinhardt, en oubliant, il faudrait se pencher quand même sur les causes de l'incendie de sa roulotte qui lui avait fait perdre des doigts, qui malgré ça il était resté le virtuose que l'on sait. Enfin, pourquoi est-ce que la roulotte de Django Reinhardt avait brûlé et pourquoi Django Reinhardt habitait-il dans une roulotte? Parce qu'il était nomade et ces gens-là sont les fils du vent, etc. Henriette Asseo nous a dit ce qu'il retournait de ce mythe du nomadisme. Elle nous a dit et répété, elle a étudié ça très longuement. Nous avons pour notre part voyagé pas mal en Roumanie, en Slovaquie, en Bulgarie, et nous avons souvent rencontré des Roms, et nous avons compris une chose, ils ne sont pas nomades. Et Django non plus. Django était là parce qu'il n'avait aucune autre place où aller. Il n'était pas un fils du vent. Même si parfois il arrive que ceux qu'on affuble du terme de gens du voyage, eux-mêmes intériorisent ce mythe projeté sur eux. C'est un phénomène tout à fait classique. Est-ce que ceux qui se sont fait expulser ce matin, à force d'être poursuivis et chassés à coups de pied dans le cul, diront « Ben voilà, nous sommes des nomades puisque nous sommes éternellement chassés ». C'est ce que nous allons essayer. Pardon, je suis enroué. Nous allons essayer de comprendre d'ici à 16h. Je ne suis pas raciste, mais les Roms.
Vous étiez aussi au camp à côté du RER, donc vous avez été expulsé.
Oui, oui, parce qu'il est arrivé la police à 4h, 5h du matin, il a réveillé les enfants, et après on allait à la parking. On a resté là-bas toute la nuit.
Et vous, c'était la première fois que vous faisiez expulser d'un endroit ou...
C'est la troisième fois déjà.
Troisième fois?
Oui. On était à la Ville Châtillon, à deuxième à Ris Orangis et le troisième à Évry. Nous, on est arrivé ici en France parce que c'est bien ici. C'est pour ça qu'on reste ici. S'il était bien en Roumanie, on va partir en Roumanie, en notre pays. En notre pays, il n'est pas bien. Nous, on est arrivé ici en France pour gagner d'argent, pour acheter une maison, pour acheter une voiture.
Là, aujourd'hui, vous êtes venu au tribunal, pourquoi?
Pour voir pourquoi ils ont explosé.
Normalement, aujourd'hui, le tribunal aurait dû décider si vous étiez expulsé ou pas.
Voilà.
Et vous avez déjà été expulsé hier, de toute manière.
C'est pour ça que je suis venu ici, qu'on va voir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que vous avez beaucoup d'enfants. Il y a 40 des enfants. La mairie, rien à propos. Rien, rien. Rien.
Ha ha ha! Honnêtement, avant qu'on ait des campements, que ce soit sauvage ou celui-ci qui est légal, on pouvait, enfin moi personnellement, j'avais une politique où je me disais, toute personne peut avoir à un moment ou à un autre envie de s'insérer à une autre société. Mais quand on a vu avec déjà les campements sauvages comment ça se passait, et ce campement qui ne déroge absolument pas à la règle des autres, puisque finalement il n'y a absolument aucun respect du voisinage, là on change de comportement. Il y en a marre.
C'est pas que du vol, ils font de la prostitution, vous allez devant l'église de Saint-Denis. C'est simple, hein. Vous allez là-bas, madame, où il y a les Vélib, ils ont enlevé les Vélib, c'est les Romaines qui font la prostitution là-bas. C'est quand même un petit peu exagéré.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu dans quelles conditions ils vivent, mais ce sont des baraquements immondes. C'est sale. Si vous voyez les trottoirs, l'eau des toilettes s'évacue sur les trottoirs. Nous, dans nos jardins, on a plein de rongeurs maintenant. On est envahis de mouches. Sûr, ah ben oui, nous, on est juste là. On est juste en face. Hein.
Il y a une dévalorisation de nos biens.
On a tous plus ou moins été tous cambriolés dans le quartier, je dirais, à plus de 70%. Moi-même, j'ai été cambriolée en pleine journée. Donc j'ai cru qu'il m'avait égorgé mon enfant.
Ça a dépassé la limite, là. Alors si c'est à nous, les riverains, de faire justice soi-même, c'est malheureux, mais on va y arriver, hein. On va y arriver, hein. La vérité, c'est plus tenable. Pourquoi on va déménager, nous, à cause d'eux ? La vérité, c'est à nous qu'on est là depuis 43 ans de déménager. Ça va se finir en embrouille, madame. Alors si c'est à nous de les enlever, on va les enlever. On va les enlever et on a la capacité, on a les moyens de les enlever. On n'est pas obligé de vivre avec ces animaux-là. On n'est pas obligé. Devant la porte de chez nous, on trouve des excréments. On n'a jamais vu ça, madame. On n'a jamais vu ça.
Réaction de certains riverains près d'un camp de Rome de Saint-Denis. Et je me souviens exactement des mêmes phrases prononcées dans mon enfance. Non loin de cet endroit-là, Saint-Denis, c'était dans la Seine-Saint-Denis également, sauf que ça concernait des ritales, on les appelait les ritales. Et les ritales, c'était pareil. Et les ritales, ils pouvaient pas s'intégrer. Et les ritales, il y avait des rats dans leur cour. Et les filles des ritales faisaient les putes. Et les ritales puaient. Et les ritales étaient dégueulasses. Et les ritales, il fallait... Range le linge, décroche le linge, voilà les ritales. C'était la trouille et la hantise des ritales. Il suffit de remplacer le mot rital par le mot Rome aujourd'hui. Est-ce que ces plaintes sont entièrement consternantes, attristantes et puis c'est tout? Non, il y a sans doute une part de vérité là-dedans. Il y a sans doute une part de vérité de la part de ces riverains qui ont des biens, qui ont acquis des petites maisons, peut-être, qui payent très cher leurs petites maisons chaque mois et qui voient que la valeur de leur maison, voilà. Et puis les fantasmes, et puis l'excitation permanente, l'exacerbation par des démagogues de toutes sortes que vous connaissez, qu'il est inutile d'évoquer plus avant, qui savent jouir de ça, profiter de ça, faire des voix avec ça, s'engraisser électoralement sur ces désarrois sociaux et dresser les pauvres contre les pauvres et qui vous disent tous bien et tout. Ah mais si vous les aimez tant, prenez-les chez vous. Et c'est vrai que très souvent, on voit des avis de bien-pensants, des avis de gens tout à fait généreux qui étalent leur bien-pensance alors qu'effectivement, ils ne vivent pas dans ces conditions. Tout ça est bel et bien vrai. Tout ça est bel et bien ancien. Et tout ça est bel et bien connu, aussi bien des associations que des élus, que des municipalités. On a fait des successions de reportages, je me souviens de reportages à Achères, près de Paris, où la municipalité avait essayé, avec pas mal de succès, d'intégrer quelques familles roms, et ça marchait très bien, jusqu'à ce que la préfecture mette des bâtons dans les roues de cette municipalité et fasse échouer cette intégration en cours et qui était en train de réussir. On va voir avec Charlotte Perry des endroits où ça marche. C'est des affaires de choses au jour le jour, délicates, des rapports humains, ça relève de la... ça relève du grand art, ça relève pas du tout de la... des grandes déclarations et des grandes provocations. Et puis ça se fait bon an, mal an, peu à peu, et parfois et même assez souvent, heureusement...
ça marche. Voilà, dans ce tribunal où nous attendons donc à Évry, une autre réaction.
Je m'appelle Michel. Je suis à la retraite pratiquement, j'étais psychothérapeute. Ma découverte avec les Roms, ça m'a transformée entièrement. J'étais raciste et tout ça, j'aimais pas les femmes avec leurs gosses, je me disais, elles m'emmerdent, elles nous font pitié, tout ça. Et ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a transformée de l'intérieur. Et maintenant, je ne suis plus raciste du tout avec eux, et je suis presque plus raciste avec n'importe qui, quoi. Ils m'ont humanisée. J'étais à l'association par cette amitié qui s'est créée avec Magda, quoi.
Et Magda, qui c'est ?
Magda, c'est une petite jeune fille qui a 16 ans, et je me suis pris d'amitié, elle avait 13 ans. Elle venait faire la manche à la boulangerie. Et après, comme j'étais tout près de ma maison, je lui ai dit, si tu veux, viens te laver, viens, j'ai des habits pour toi. Puis on s'est pris d'amitié. Et puis après, sa mère, un jour, m'a demandé du secours parce qu'ils allaient casser tous les camps, là où elle était. Alors je me suis dit, je vais y aller, quoi, parce qu'il fallait un peu des témoins visuels, quoi. Et c'est vraiment terrible, hein. On voit le bulldozer qui écrase, on entend le bruit, et on voit les jouets qui sont écrasés, les petites voitures, les petits vélos. Dans un bruit, il y a un silence de mort, il sourit jaune, quoi. Tout le monde sourit jaune, c'est vraiment comme si c'était la mort, quoi. C'est vraiment un silence de mort qui règne là-dedans, et il y a les flics imperturbables, l'adjoint au maire, alors qu'ils discutent ensemble, en parlant d'autre chose, ou en cultivant une indifférence terrifiante, quoi. On essaie qu'ils ne soient pas des hommes en quelque sorte, parce qu'ils n'ont aucun droit, quoi. Les enfants, on parle de scolarité, en réalité ils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut un certificat de domiciliation, et on peut leur faire une fois, et après si on les chasse 2 mois après du camp, rien ne fonctionne, quoi. Alors que vous rendez compte, l'État est censé protéger les enfants. En dessous de 3 ans, personne ne doit dormir dehors, en dessous de 7 ans non plus, alors que les gosses, ils ont 1 an, 2 ans. Et les enfants, l'effroi quand ils voient leur cabane écrasée, l'endroit où ils sont, leurs jouets, là où ils ont dormi. Et c'est sous leurs yeux, hein, les gosses, ils le voient.
Julie Bonny-Hamon, avocate des Roms qui sont convoqués ce matin.
Donc là, on se trouve dans le tribunal. L'audience va avoir lieu ce matin.
Voilà.
Mais l'expulsion a eu lieu hier, par contre.
L'expulsion a eu lieu hier à la demande du maire. Lorsque ça s'est produit pour la première fois sur l'Essonne en janvier dernier, nous avions été extrêmement surpris puisque c'était Manuel Valls qui avait signé l'arrêté d'expulsion.
Qui était encore maire d'Évry à l'époque.
Il était encore maire d'Évry et il était, je crois, encore socialiste à l'époque. Et donc nous avions été surpris parce que nous ne nous attendions pas à ce genre de décision de sa part. Cela dit, le gouvernement était celui au mois de janvier dernier et donc nous pouvions imaginer qu'il s'agissait d'une politique globale. Là, on a un discours de M. Hollande qui se réengage à ce qu'il n'y ait pas d'expulsion sans décision de justice, ce qui veut bien dire d'ailleurs qu'il y avait des expulsions sans décision de justice, donc sans contradictoire, sans respect des principes de droit de la défense et des principes fondamentaux. Et là, on recommence, malgré cette déclaration de principe, où on continue, en tout cas sur le territoire d'Évry. Parce que je tiens à dire que sur l'Essonne, c'est finalement un procédé assez rare, et qu'on l'a constaté 2 fois, les 2 fois sur Évry. Les solutions, c'est évidemment pas, parce que ça a été beaucoup dit, notamment par le signataire, M. Choix, de cet arrêté d'expulsion.
Donc le maire d'Évry.
Voilà, le maire d'Évry. La solution n'est évidemment pas de maintenir un bidonville tel qu'il y était. Ça n'est pas le projet, ça n'est le projet d'aucune association qui intervient aux côtés des Roms. En revanche, c'est une étape temporaire qui permet la mise en place des droits, et y compris les demandes de logement, qui sont déposées très régulièrement. Car comme ce ne sont pas des nomades, ils sont tout à fait prêts, contrairement aux voyageurs, contrairement aux nomades, à accepter d'intégrer un logement. Ils ne demandent que ça, c'est leur revendication. Et on peut faire ces démarches une fois qu'ils sont posés. On y arrive, mais il faut laisser le temps et certainement pas envoyer la pelleteuse, ce qui ne fait que retarder le problème. On détruit le bidonville, mais on déplace le problème et on retarde l'insertion.
Francis Choix, maire d'Évry, président de la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne. Ouais, d'abord, je suis toujours étonné que l'on puisse opposer 2 procédures qui sont complémentaires. Il y a à côté d'ici, à 5 km d'ici, un campement de plus de 450 personnes, dans des conditions qui sont absolument intolérables. Le maire a engagé une procédure. La justice l'a débouté. Et par conséquent, ce campement prolifère. J'ai aussi le devoir de penser aux populations riveraines Et par conséquent, je leur dois aussi la sécurité. Donc la vraie question, c'est pas de savoir si je devais ou si je ne devais pas exercer mes pouvoirs de police. La question est de savoir dans quelles conditions je le fais. Et de ce point de vue, je rappelle que ce campement a été évacué dès lors que ont été travaillées en amont les propositions d'hébergement de ces personnes.
Enfin, les personnes ne sont pas allées en hôtel d'urgence, elles sont retrouvées à la rue, certaines sur un campement à Ris-Orangis, donc la commune voisine, sous des tentes prêtées par le Secours catholique.
Ce n'est pas mon fait. 79 places ont été proposées, le matin à 6h30. Il s'agit de places de long séjour, c'est-à-dire des hébergements individuels ou familiaux, pour au moins 8 jours. Alors pour quelles raisons y a-t-il eu le refus des hormis une famille ? Pour deux raisons. La première, c'est que ces campements ne fonctionnent pas sous le mode de l'autogestion. Il y a, on le sait, une hiérarchie dans ces campements. Et il leur a été vivement déconseillé de répondre à cette proposition.
Pourquoi ? Pourquoi ? Par qui ?
Comment ça, par qui ? Vous ignorez le mode de fonctionnement de ces campements ? Le mode de fonctionnement de ces campements relève de réseaux qui sont plus proches de la mafia que d'autre chose. Les trafics, ils existent, non ?
Tous les gens qui sont dans les campements ne sont pas des trafiquants.
Non,
je ne remets pas en cause qu'il y ait des trafics, mais je dis que tout le monde n'est pas des trafiquants. Pourquoi vous voulez que j'arrête ?
Vous connaissez la situation de ces campements ou pas ?
Oui,
et alors vous ne savez pas qu'il y a du trafic, vous ne savez pas qu'il y a de la mafia, vous ne savez pas qu'il y a de la prostitution. Vous voulez que je vous explique par le menu ce qui s'est passé au moment du démantèlement de ce campement ? Enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Ah bon, vous dites qu'il y a du trafic, prouvez-le-moi. Non mais enfin, franchement, vous voulez que je réponde à ce type de questions ? Non, je réponds à des questions d'un journaliste de France Inter sur des questions précises. Pas sur le mode d'un procureur et d'un accusé, ok ?
D'accord, alors juste répondez-moi. Il y avait des trafics dans ce camp. Informez-moi.
Bon, allez, c'est bon.
J'aimerais bien que vous me répondiez.
Faites votre métier.
Mais oui, mais j'aimerais bien que vous me répondiez alors.
Faites-le en conscience.
Mais c'est ce que je fais.
Non ?
Vous me dites qu'il y a des trafics, des vols.
Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles ils ont refusé les propositions. Le résultat, c'est qu'effectivement, le relogement est un échec. Cela justifie quoi ? Le maintien de ces campements ? Cela, je ne le tolérerai pas sur Évry. Que les choses soient claires, je ne l'ai pas toléré hier. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que je le tolère aujourd'hui.
Et aussi, selon un sondage de l'IFOP, 80% quand même des Français sont favorables au démantèlement de camps, 71% même des sympathisants socialistes. Donc, électoralement, c'est plus payant, on va dire, de faire ça qu'autre chose.
Cette question est absolument déplacée. Vous voulez dire quoi ? Que j'ai pris une position électoraliste ? C'est ça que vous voulez me dire ?
C'est la dernière fois.
Au revoir.
Bonjour et bienvenue à la préfecture de l'Essonne. L'opératrice va vous répondre. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Charlotte Perry de France Inter.
Oui.
Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles quant à ma demande pour délinquance des Roms.
Alors, je viens de voir ma collègue. Effectivement, elle en a parlé au préfet tout à l'heure. Le préfet ne souhaite pas communiquer sur ce sujet.
Ah, parce que moi, j'ai rencontré, vous savez, Monsieur Choix, le maire d'Évry, qui m'a laissé entendre qu'il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de délinquance, de la prostitution, que c'est pour ça aussi qu'il ne voulait pas que les campements s'implantent dans sa commune.
Oui.
Et ensuite, je lui ai demandé des précisions. Il m'a dit, franchement, je vous le dis, de faire mon boulot. Donc du coup, j'essaye de faire mon boulot et d'obtenir un peu plus de précisions.
Monsieur Choix, le maire d'Évry, s'est exprimé, il a dit ce qu'il avait envie de dire. C'est pas un problème, c'est un élu, il est voilà. Mais ici, au niveau de la préfecture, au niveau des services de l'État, non, on s'exprime pas sur ce sujet-là.
Et du coup, vous n'avez pas une idée de à qui d'autre je pourrais m'adresser ?
Non, puisque le préfet, qui est le représentant de l'État, a dit on ne communique pas, donc l'État ne communiquera pas, voilà.
D'accord, mais vous comprenez que c'est embêtant pour un journaliste d'avoir quelqu'un qui vous dit qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de délinquance, c'est pour ça qu'on démantèle les camps. Je suis obligée de le croire sur parole.
Je suis désolée, je ne peux pas vous aider davantage.
Il vous a donné un motif pour lequel il refusait de s'exprimer ?
Ah non, le préfet ne se justifie pas. Hein. Non, vraiment non.
D'accord, donc il n'y a aucun moyen de savoir précisément l'état de la délinquance dans ces campements. Donc on peut continuer à dire qu'il y a beaucoup de délinquance sans avoir aucune justification.
Je ne peux pas vous aider davantage, je suis désolée. Voilà, vous n'êtes pas visée, je veux dire, ça dépend des sujets, mais là non. C'est tout. Au revoir.
Au revoir. À l'endroit où vous êtes logé. C'est un terrain un petit peu dans la forêt.
Oui, c'est la forêt ici, oui, pour habiter jusqu'à ce soir, demain, je ne sais pas.
Et là, c'est un petit chemin et on rentre dans une partie de la forêt.
Ah oui.
Ben, on ne dit pas où c'est le terrain. Pas que la police revienne.
Oui, parce qu'après, peut-être, va venir la police, on va dégager d'ici aussi. Toujours comme ça, on vient la police, on comme ça.
Bonjour, mademoiselle. Ça va et vous? Comment tu t'appelles?
Rebecca.
Tu as quel âge?
7 ans.
Tu vas à l'école?
Oui.
Ici, à Évry?
Non, à Ville-Châtelieu.
C'est quoi, là, avec ça, sur quoi vous jouez? C'est un frigidaire?
Oui. C'était là.
C'était ici?
Oui.
Eh bien.
On a trois.
Et là, cette nuit, vous avez dormi sous des tentes? Comment vous avez dormi?
C'est
là-bas. Tu viens nous montrer?
Ici, il y a des lapins.
Il y a des lapins, là?
Oui.
Et toi, t'as un petit chat dans ton sac?
Oui.
Ouais?
Ah, c'est ça, regarde.
Où ça? Dans les tentes, là?
Oui.
C'est laquelle?
C'est ça. Elle est où, les mamans?
Ah, c'est ta maman qui est là?
Oui.
Alors, c'est là où vous êtes installé?
Oui, c'est ici qu'on a installé la tente pour l'instant.
Vous avez un canapé?
Non, c'est ici avant.
C'était ici avant?
C'est avec l'autre famille qui sont ici. Parce que vous avez deux, trois familles qui sont ici avant. Donc pour ça. Nous, on vient jusqu'ici parce que c'est des amis.
Donc, il y avait déjà des familles qui étaient ici? Et donc, c'est aux autres familles, là, les baraques?
Oui.
Et vous avez quand même réussi à récupérer quelques affaires ou à peine?
Non, je prends juste un chariot, c'est pas beaucoup.
Ah, le caddie là qui est là-bas?
Oui, oui.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
Et là, la poussette avec toutes les couvertures?
Oui, les couvertures qui sont possibles pour récupérer, pour dormir la nuit avec le temps.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ça va et vous?
Oui. Ça, c'est de l'eau?
Donc c'est dans, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 bidons.
Oui, bidons.
Dans une carriole
oui.
Que vous traînez derrière un vélo. Et ça sert pour faire la cuisine, pour se doucher.
Oui, ça c'est de, comme ça, de douche, ça c'est bon de douche, la bébé, la moi. Merci beaucoup madame.
Au revoir.
D'ailleurs à Évry, au mois de novembre, va y avoir le mois de l'eau. Eh bien, nous, chez nous, à nos portes, là, il y a les Roms. Pour eux, tous les jours, l'eau est une corvée.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Saïmir Mille, je suis le président de l'association La Voix des Roms.
Il est aussi imbécile de dire qu'on démantèle les camps parce qu'il y a des trafics que de dire non, 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 il n'y a absolument pas de délinquance chez les Roms. Nous sommes un peuple, nous ne sommes pas la race des anges. Et donc, il y a des délinquants chez nous, comme il y a des musiciens, des médecins, des gens bien, des gens mal, etc. Maintenant, démanteler des campements où vivent peut-être des délinquants, ce n'est pas répondre à la délinquance, c'est juste aller faire vos méfaits 2 kilomètres plus loin. Mais tout ceci est de la pure démagogie, parce qu'il y a une coopération renforcée policière entre la France et la Roumanie depuis des années, depuis 2003 avec Nicolas Sarkozy, des policiers roumains qui travaillent ici en France et des policiers français qui travaillent en Roumanie. Ça aboutit à quoi comme résultat ? À absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de réseaux internationalement organisés comme on tente de nous faire croire. Il y a de la délinquance, ça reste quand même de la petite délinquance, là où ça existe, et ça reste dans des proportions très 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 minimes. Par rapport à tout ce qu'on dit, c'est faux. Et je cite Madame Emmanuelle Mignon, qui était conseillère de Sarkozy en 2004, au ministère de l'Intérieur, qui nous disait « Nous savons qu'il n'y a pas plus de délinquance chez cette population que dans l'ensemble de la population française. » Alors que la gauche arrête d'être plus sécuritaire que la droite. Le gouvernement actuel poursuit exactement la même politique que le gouvernement précédent, à la seule différence que peut-être, et même là, avec beaucoup de réserves, il y a peut-être quelques nuances au niveau de la communication, mais vraiment minimes, parce que rien que le vocabulaire utilisé, démantèlement de campements illicites, le gouvernement précédent a eu le mérite de réfléchir au vocabulaire. Et il a réfléchi, et cette expression-là correspond à un besoin de stigmatisation et d'exposition de cette population-là comme un épouvantail qui fait peur. Manuel Valls, aujourd'hui, et le gouvernement aujourd'hui, dans son ensemble, utilise exactement le même vocabulaire. Est-ce qu'il y réfléchit ? Le gouvernement précédent y avait réfléchi, et c'était dans un but précis qu'il utilise ce vocabulaire-là. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche en manipulant cette question-là ? En ce moment, il y a des manifestations dans une ville du Nord, en nom un peu nordique, 6 coins, je crois, où les riverains sont dressés contre l'implantation d'un site pour reloger des Roms. Avec la campagne politico-médiatique anti-Roms depuis 2003, ce n'est pas étonnant. Mais 2003, c'était Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a fait la première expulsion médiatisée des Roms à Choisy-le-Roi, et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Ça va faire bientôt 10 ans. Et je me surprends même que ça reste seulement à ce niveau-là, parce qu'en Italie, par exemple, il y a eu des pogroms, des véritables pogroms. Alors j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais pour ça, il faut que les responsables politiques respectent le mot « responsable ». Ils sont responsables, ils doivent exercer leur responsabilité dans le sens de l'intérêt commun et de la cohésion sociale.
Et ils sont revenus, les Roms.
Claude Guéant, BFM, 28 août 2011.
Oui, c'est Claude Guéant, aussi nombreux et aussi délinquants pour certains.
Des actions très nombreuses ont été menées.
Inefficaces.
Des actions très nombreuses ont été menées.
Oui. Non,
et je pense que si elles n'avaient pas été menées, les conséquences eussent été plus importantes encore en termes de présence.
On nous a menés en bateau il y a un an, Claude Guéant.
On
ne
nous a pas menés en bateau du tout.
Qu'est-ce qu'on nous a dit ?
Les intentions qui ont été annoncées ont été suivies des faits. La totalité des camps de Roms en région parisienne, par exemple, ont été démantelés. Alors cela étant,
ils sont plus dans les camps, ils sont
vous avez raison,
sur les bords alors, du périphérique ou
vous avez raison,
dans
ça,
des terrains vagues.
Ça reste, je le dis très clairement, et je l'ai dit déjà, en prenant mes fonctions même voici quelques mois, la présence de Roumains délinquants dans notre pays est quelque chose de préoccupant. Il faut savoir que 2% de la délinquance en France sont le fait de Roumains. Bon, c'est un phénomène qui est spécialement marqué à Paris, à Marseille. J'ai entrepris une action de coopération forte avec les autorités roumaines. Nous avons des policiers de liaison à Paris qui vont nous permettre de remonter vers les filières criminelles, vers les villages qui, spécialisés d'ailleurs par type de délinquance, envoient des équipes en France. Il y a un aspect particulier qui est celui des mineurs, parce que presque la moitié des délinquants roumains sont des mineurs, qui évidemment bénéficient bénéficient d'une protection particulière. Nous allons faire en sorte que les mineurs rentrent en Roumanie dans les services d'aide à l'enfance de Roumanie.
Voilà, Claude Guéant à cette époque-là, on se souvient de ses propos évidemment et éminemment discutables. La tristesse peut vous envahir si vous songez que rien ou peu de choses, peut-être encore moins que rien, n'a changé depuis. Rencontre avec Grégoire Cousin, qui est juriste et doctorant en droit public au sein de l'Observatoire Uraba Rome et qui, vous le comprenez, se préoccupe du sort des Roms en Europe et en France.
Alors, est-ce qu'on a une idée précise de la délinquance qui est imputée aux Roms qui vivent dans les bidonvilles ? Est-ce qu'on a une idée de la réalité de ces supposés trafics, réseaux qui se développeraient dans les campements illicites ?
Alors, on n'en sait absolument rien et personne n'en sait grand-chose, dans le sens que déjà, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc on ne peut pas compter les Roms. À partir de là, le discours du ministère de l'Intérieur pendant les 5 dernières années était de mesurer la délinquance des Roumains et de faire un amalgame permanent entre Roms et Roumains autour de ça. Donc on peut quand même déjà voir ces chiffres. On prétend une augmentation permanente tous les ans, on nous dit plus 100% de délinquants roumains. C'est les chiffres de mise en cause et pas de condamnation, dans le sens qu'il n'y a pas de statistiques des condamnations par nationalité en France. Sachant que c'est des mises en cause et non des personnes. C'est-à-dire que la même personne peut être mise en cause 10, 15, 20 fois. Donc après, il faut séparer les choses. Sur la toute petite délinquance, vous allez effectivement avoir un phénomène comme assez répandu, notamment sur la mendicité, lavage de pare-brise, ce genre de choses, qui sont des phénomènes d'économie de survie individuelle. Il n'y a pas de réseau de mendiants, c'est pas vrai. Les gens, quand vous gagnez 5-10 euros par jour, vous ne pouvez pas faire un système pyramidal pour récupérer l'argent, c'est ce que vous avez besoin pour manger. Sur d'autres choses, il est possible qu'il existe des réseaux, mais en fait, ça n'a jamais été démontré. C'est-à-dire que le système hyper pyramidal tel que voit la police, on n'y a pas, à ma connaissance, d'organisation où on fait remonter l'argent en Roumanie en grande quantité. Vous n'avez pas de chef qui a une armée derrière lui, ça n'existe pas. Dernier point, c'est celui effectivement de l'usure comme système qui force des gens qui arrivent de Roumanie, donc complètement un autre profil. C'est des gens qui ont fait des prêts très forts en Roumanie, c'est-à-dire des prêts qu'on appelle les kamata, où vous doublez ce que vous devez tous les mois, et vous avez donc quelques mois pour rembourser. Et là, les gens débarquent de Roumanie, essayent de rembourser en quelques mois et reviennent en Roumanie après. Et n'importe quelle activité est bonne à prendre, que ça soit faire un mois de vendange, ou se prostituer, ou cambrioler. C'est-à-dire que vraiment, l'important, c'est qu'en un mois, il faut qu'on ait remboursé sa dette. Et ces gens qu'on voit passer comme ça très rapidement, et qu'on ne revoit pas après.
Ou les affaires sur lesquelles vous avez le plus travaillé, c'était des affaires qui concernaient quoi essentiellement ?
Et c'est essentiellement du vol de ferraille. C'est pas le monde des bisounours, c'est pas le monde des bisounours non plus. Hein, c'est pas.
Voilà, retour sur le terrain, et plutôt autour du terrain.
Est-ce que ça va mieux depuis que le camp a été démantelé, ou il y avait des problèmes avant ? Comment ça se passait, vous qui habitez juste à côté ?
Je ne veux pas dire que ça va mieux. Si vous voulez. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Quoi. Voilà. Donc on va attendre un peu de temps pour savoir si ça va mieux. Moi, on m'a volé, dans mon garage derrière, là, on m'a volé une voiture. Alors, un jour, j'ai les flics qui m'appellent de Lompon-sur-Orge et qui me disent « Vous avez bien une 306 ?» Je dis « Oui, c'est la voiture de ma femme. Elle était dans votre garage ?» ?»« Oui. » »« Ben, n'y est plus, monsieur. » Ah, je dis « Bon, allez voir. » Alors, je vais le voir, elle n'y était plus. Ben, on vient de la retrouver, c'était de Rome, parce qu'à Lompon-sur-Orge, il y a un gros campement là-bas. Ils étaient rentrés, je ne sais pas comment, ils étaient rentrés, puis ils avaient fauché la voiture.
Ils ont retrouvé les gens qui avaient fait ça ?
Oui, ils les ont coursés. C'était là, mais il y a un beau camp de Rome là-bas. Ils ont vu cette voiture, ils ont voulu l'arrêter sur la route. Donc ils ont laissé la bagnole là et les types sont partis en courant, quoi. Je leur en veux pas, hein, mais c'est vrai qu'on se sentait pas très... Et puis on leur mettait beaucoup de choses sur le dos, vraisemblablement. Enfin, moi, je suis sûr que c'était des Roms qui avaient piqué la voiture, parce que c'est les flics qui me l'ont dit. Hein.
Mais dès qu'il y avait quelque chose qui disparaissait, on tendait à penser que...
Tout le monde, c'était des Roms, oui. C'est, tout le monde disait que le camp des Roms était à côté.
Et du coup, tous les problèmes, ça devenait la faute des Roms.
Bon, il n'y a pas eu tellement de problèmes. Mais enfin, il y en a eu. Mais enfin, bon, il n'y en a pas eu. On a deux garages qui ont brûlé, par exemple. Donc, on ne sait pas qui c'est, si vous voulez. Hein. Mais on se doute. Je ne dis pas que c'est eux. Hein.
On dit pas que c'est eux. Mais bon, on sentait une certaine... Alors on les voyait toujours avec leur vélo et leur carriole pour charger dans les poubelles ce qui les intéressait, quoi. Bon, enfin... Derrière, chez nous, à un moment donné, nos garages n'étaient pas sécurisés, nos box. Mais on a volé des vélos, hein. Oui, il y a beaucoup, hein. Nous, on a dit que c'était des enfants roms parce qu'ils étaient mal habillés, parce qu'ils ont un certain, ils ont une certaine allure. Enfin, on va pas leur mettre tout sur le dos.
Bon, non. Et moi, je peux vous dire, Daniel Berbet, producteur délégué à France Inter et journaliste, qu'ici, dans le 16e arrondissement, il y a une semaine, on m'a volé mon vélo et j'ai pas vu dans le coin. Merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. À la technique aujourd'hui, Patrick, Henri et Sophie. Tout le monde rigole, mais c'est vrai qu'on m'a piqué mon vélo devant l'immeuble. Patrick, Henri et Sophie Moreno à la technique aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun et Chloé Sanchez, préparée par Pierre-Yves Bulle et Solène Cordier. Attends vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 36 36.
Du 18 au 21 octobre, c'est la fête de l'énergie. Venez faire le plein de conseils auprès de votre espace info-énergie et réaliser des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur adem.fr ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 3025 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Non, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 3025, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Être utile à Paul, cuisinier, c'est lui donner de la visibilité sur ses dépenses d'énergie.
Moi, c'est Paul, et dans mon resto, c'est dur de prévoir. Un soir, j'ai 30 couverts, un soir 50. Heureusement, côté énergie, c'est différent. Avec la nouvelle offre de marché de GDF Suez Énergie France, l'électricité et le gaz naturel sont à prix fixe pendant 3 ans, avec en plus une remise équivalent à 10% sur mes abonnements.
Informations et conditions au 0811 01 3000, appel non surtaxé et sur notre site internet. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent Le Retour de Harold Pinter. Mise en scène par Luc Bondy dans une traduction de Philippe Djian au Théâtre de l'Odéon du 18 octobre au 23 décembre. Cinq hommes et une femme s'affrontent dans un huis clos où les désirs s'effleurent puis explosent. Avec Bruno Gantz, Louis Garrel, Pascal Grégory, Jérôme Kircher, Michel Esco, Emmanuel Seignier. Retrouvez Le Retour dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et un peu plus sur Inter, on se retrouve demain à 15h, je ne suis pas raciste, mais les Roms, je vous laisse pour les infos avec Nicolas Teilhard. Salut!
Les ministres sont là pour défendre la politique du gouvernement et rien d'autre. Recadrage signé Jean-Marc Ayrault. Il intervient après la polémique déclenchée par la sortie de Vincent Peillon hier soir sur Inter en ouvrant la porte à un débat sur la dépénalisation du cannabis. Le ministre de l'Éducation s'est attiré les foudres de l'exécutif, donnant à l'opposition une matière inespérée pour dénoncer le laxisme de la gauche sur la sécurité. Vincent Peillon qui a précisé ce matin qu'il ne s'agissait que d'une position personnelle. La légalisation permettrait pourtant de contrôler la consommation et de limiter les trafics. Ça, c'est la position défendue sur notre antenne par Noël Mamère, le député écologiste, pointant au passage l'hypocrisie du monde politique sur la question. Noël Mamère et la droite qui ont tout de même trouvé un point de convergence. Il concerne Florence Lamblin, cette élue écologiste de Paris mise en examen pour blanchiment. Elle doit démissionner si elle reconnaît une fraude fiscale, selon le maire de Bègles. Elle demande déjà prononcée par le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, mais que Florence Lamblin repousse pour le moment. Dans le Var, le procès de la tuerie des marronniers se poursuit malgré les soupçons de subornation de témoins. Ce procès en appel d'Ange-Toussaint Federici avait été ajourné vendredi après une série d'interpellations à Marseille où 6 personnes ont été mises en examen hier pour subornation de témoins. Le procès est donc repris. Ce matin, la défense n'a pas souhaité demander le renvoi, Federici assurant qu'il n'est pour rien dans l'apparition de témoins particulièrement douteux dans le dossier. Et puis à Toulouse, 3 personnes placées en garde à vue ce matin. Parmi elles se trouverait le chauffard responsable de la mort d'un adolescent de 14 ans. C'était samedi. Des familles s'inquiète reçue aujourd'hui à l'Elysée, les familles des otages français retenus au Mali. François Hollande va tenter de les rassurer malgré les menaces réitérées ce week-end par un responsable d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui assure que la vie des otages dépend de la politique étrangère française et notamment d'une participation à une intervention militaire dans la région. L'Union européenne accentue elle sa pression sur le régime syrien de Bachar al-Assad. Un nouveau train de sanctions financières a été adopté. Ce matin, il vise une trentaine de dignitaires du régime dont les fonds seront gelés. La Syrie où les violences ne diminuent pas, bien au contraire, encore 150 morts hier dans des affrontements. Et puis la mort d'une figure du XXe siècle, l'ancien roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. Père de l'indépendance du pays, il avait cédé son trône à son fils en 2004 après plus de 50 ans de règne entrecoupé d'exil. Sa dépouille sera rapatriée mercredi de Pékin, puis exposée pendant 3 mois avant ses funérailles.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Rendez-vous pour des enregistrements en public après-demain, mercredi 17 octobre à Corbie dans la Somme et jeudi 18, toujours dans la Somme, à Roye. Puis nous serons dans le Loiret, mercredi 24 octobre, rendez-vous à Orléans et jeudi 25 à Chambon-la-Forêt. À très bientôt.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film.
Ça
il nous renvoie
ça
une
m'avait
image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, partenaire de l'exposition L'impressionnisme et la mode, jusqu'au 20 janvier au Musée d'Orsay à Paris. Témoins sensibles de leur époque et fins observateurs de la vie moderne, les impressionnistes se sont attachés à rendre compte de la vie contemporaine et de la figure humaine dans son milieu quotidien. Venez découvrir les chefs-d'œuvre, accessoires et costumes qui rendent compte des modes et attitudes de leur temps. Retrouvez l'exposition L'impressionnisme et la mode dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, partenaire du Festival de cinéma Lumière 2012 à Lyon du 15 au 21 octobre. Redécouvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma en copie restaurée de Vittorio De Sica à Ken Loach prix Lumière 2012. Plus de 200 séances dans les salles de Lyon et du Grand Lyon en présence de nombreuses personnalités du cinéma. Retrouvez Lumière 2012 dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter, là.
Oui, non.
Attends. Si ça continue, ça finira jamais.
Oui, enfin, en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai.
Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Alors ?
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
16h et bientôt 6 minutes à l'horloge sur Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Nicolas Taillard. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Patricia Petitbon, notre soprano, une de nos plus belles personnes sur la scène et puis dans la vie aussi. Bonjour Patricia donc.
Ben bonjour.
Alors vous aussi, vous faites dans les médias, hein, comme on dit, moi je vous ai vu à la télévision dans Berlingot cet été, c'était très convivial, très chaleureux, vous avez gardé quelle impression de cela ?
Oh bah une expérience assez passionnante finalement, une grande concentration, hein, puisque quand on passe de l'autre côté, on essaie... Enfin moi, de toute façon, je suis restée une artiste hein, qui interviewait voilà, les artistes. Je voulais surtout donner la parole aux artistes. Mais c'était très intéressant d'essayer d'anticiper les questions et de se placer sur une corde sensible. Donc,
d'être à l'écoute de l'autre.
Voilà. Hein, mais je trouvais ça passionnant en fait.
Mais vous avez bien raison parce que ça nous passionne ici aussi. C'est une maison de médias, France Inter, évidemment, Radio France en général. Et puis, comme vous l'avez dit, vous êtes avant tout artiste et vous nous proposez un nouveau disque qui sort aujourd'hui, donc Nouveau Monde, airs et chants baroques. Et vous serez en concert, parce qu'il y a une petite erreur sur le disque, il y a un bandeau qui indique le 26 février, c'est le 25 février.
Ah bon ?
Oui, je vous le signale, on a bien vérifié. Au château de Versailles. Non, mais ça y est, ça va être réparé. Château de Versailles, Galerie des Glaces. Et puis, vous serez aussi à la Villette, comme on dit familièrement, donc la Cité de la Musique, le 16 janvier à 20h, pour Scheherazade de Maurice Ravel.
Oui.
La très jolie flûte enchantée, l'indifférent, etc. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est mignon. Mais on va s'attaquer, si j'ose dire, avec affection à ce nouveau disque. Et voici Monsieur José de Nebra, né en 1702, qui a écrit La Sarsuela. La Sarsuela, c'est une sorte d'opéra comique, c'est quelque chose de opérette, opéra comique, enfin bon.
Voilà, ça dépend, il y a des Sarsuela tragica, comme la Bida Breve, oui. Manuel de Falla, bon là c'est un petit peu plus tardif, mais eh bien là, oui, voilà.
Et des choses quelquefois plus légères.
Enfin, plus légères, bon là c'est du 18e siècle, donc...
C'est chanté, c'est parlé, il y a un mélange des genres, hein.
Oui,
danser aussi, bien sûr.
Oui, et puis les castagnettes aussi, oui. Bon là vous avez choisi le premier morceau, c'est
oui,
ça
oui, c'est ça.
C'est sur un naufrage, donc oui. Ça tombe bien parce que justement mon album est autour de la mer et du rapprochement des continents, donc...
Mais il va triompher, il ne fera pas naufrage, ça on en est certain. Et on l'aime déjà cet album. Donc le texte en français, si vous voulez bien, c'est Eumène qui chante, le vaisseau qui ne craint pas que la mer tranquille se trouble, voit un nuage et entend le tonnerre, et déjà redoute le naufrage. Hein, quand même, un peu d'angoisse. Telles sont les âmes altières, selon le précepte de Diane, la tempête les inquiète et elles commencent à sombrer. Ah, ça veut quand même dire que si on a une grande âme, on peut être plus inquiet que d'autres. Attendez, la psychanalyse n'est pas loin.
De toute façon, il y a une métaphore, hein, oui. Évidemment. Mais c'était intéressant, en tout cas, vocalement, de s'imaginer sur un bateau, parce que j'ai utilisé des vocalises qui donnent un petit peu le mal de mer, vous allez voir.
Bon, on est parti.